RFI. Grand reportage.
Entre les années 1960 et les années 1990, plus de 20 000 enfants chiliens ont été adoptés, emmenés à l'étranger par des familles françaises, italiennes, américaines, belges ou encore canadiennes. Des adoptions encouragées par la dictature du général Pinochet. Mais des années après, des voix ont commencé à s'élever au Chili. Plusieurs milliers de mères biologiques n'avaient en fait jamais accepté que leur bébé soit ainsi proposé à l'adoption. RFI est allé à la rencontre de ces femmes au Chili, mais aussi d'enfants adoptés en France qui sont en quête de leurs origines. Adoption forcée au Chili, mères et enfants à la recherche de la vérité. C'est un grand reportage de Justine Fontaine au Chili et en France de Lucille Gimbert.
Nous sommes à 1200 km au sud de Santiago, dans la ville d'Ancud, sur l'île de Chiloé. Ruth Huisca nous reçoit dans une maison recouverte de tuiles de bois, typique de cette île. C'est l'hiver au Chili et un feu est allumé dans le salon. Au milieu des années 80, Ruth vit et travaille à Osorno, dans le sud du pays. Elle tombe enceinte de son petit ami. Elle a alors 17 ans, lui en a 16. Il part dans une autre ville et Ruth accouche seule d'une petite fille à l'hôpital d'Osorno. Mais elle n'ose pas retourner dans sa famille à la campagne.
À l'époque, je n'aurais pas pu revenir chez mes grands-parents avec un bébé. Ils m'auraient mise dehors, ils m'auraient collé une raclée. Alors j'ai eu peur de leur dire que j'étais enceinte. Et j'ai cherché une pension pour ma fille. Je l'ai confiée à une dame en qui j'avais confiance.
Au début, Ruth voit son bébé tous les jours. Elle travaille en même temps dans un bar. Mais les clients se font rares et elle trouve un emploi mieux payé sur l'île de Chiloé, à 200 km de là. Sa fille, Claudia, reste en pension auprès de la même personne.
Je lui donnais 5000 pesos par mois. C'était une somme importante à l'époque. Mais je suis tombée malade et pendant 6 mois, j'étais alitée. Je n'ai jamais su exactement ce que j'avais. Et je n'ai pas pu envoyer d'argent à ce moment-là. Alors cette dame m'a dénoncée.
Ruth est convoquée au tribunal, accusée d'avoir abandonné sa fille. À ce moment-là, elle ne sait pas lire, alors elle ne comprend pas précisément ce qui est écrit sur les documents qu'on lui présente.
L'assistante sociale ici m'a dit que j'étais jeune, qu'un jour j'allais me marier et avoir beaucoup d'enfants, et que je ne m'inquiète pas. Et il fallait que je signe. Elle m'a assuré que si je ne signais pas, j'allais être arrêtée. Donc j'ai signé.
Elle réalise ensuite que ces documents étaient des papiers pour donner Claudia en adoption. Et malgré des recherches auprès du commissariat, Ruth n'a jamais retrouvé sa fille. C'est seulement il y a quelques années qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas la seule à avoir vécu une histoire similaire. De retour à Santiago, nous avons rendez-vous avec Aida Caceres. Cette inspectrice municipale vit dans une petite maison avec ses deux fils. Elle aussi vient d'une famille pauvre du sud du Chili. Elle a perdu la trace de son bébé après avoir accouché à l'hôpital de Coronel, à 500 km de la capitale.
À 21 ans, je suis tombée enceinte d'une petite fille. Je suis arrivée à l'hôpital avec des complications, ma fille est née, et je me souviens très bien que l'infirmière a dit « Regarde comme ta fille est belle ». C'est tout ce dont je me souviens. Je l'ai entendue pleurer, et ensuite, je ne l'ai plus jamais revue.
Et ahí, hasta la fecha, no la he visto nunca más. Hasta ahora.
Rapidement, une soignante lui dit que sa fille est morte, mais Aida n'arrive pas à y croire, et elle cherche à en avoir le cœur net. Nous sommes alors en 1986.
Je l'ai cherchée dans l'hôpital de Coronel, mais elle n'était pas là. J'ai demandé ce qui lui était arrivé, posé plein de questions, jusqu'à ce que je trouve cette infirmière. Et elle m'a dit, ta fille n'est pas morte, elle a été envoyée dans un foyer pour mineurs. Ils ont dit que je l'avais abandonnée, mais je n'ai jamais été devant le tribunal. Je n'ai jamais signé de document d'adoption, jamais.
Aida n'a jamais cessé de chercher sa fille, sans succès, mais il y a 3 ans, elle reçoit un message sur les réseaux sociaux depuis la France.
Est-ce que tu es ma mère ? Cette question-là, je ne l'oublierai jamais.
Depuis, elle prend régulièrement des nouvelles de sa fille, malgré la barrière de la langue. Et Marie, c'est son nom actuel, lui a envoyé une copie de son dossier d'adoption. Dedans, plusieurs informations surprennent Aïda.
Passaporte.
Le passeport.
C'est une bébé.
C'était encore un bébé.
Porque ella nació el 22
car elle est née le 21 septembre. Et le 17 décembre de la même année, elle était déjà en train de quitter le Chili avec une décision de justice disant qu'un couple français venait la chercher. Et dans le rapport, il était écrit que j'étais alcoolique, alors que je n'ai jamais bu une goutte d'alcool.
Yo jamás en mi vida he bebido alcohol.
Au Chili, plus de 700 plaintes ont été déposées ces dernières années pour des adoptions forcées qui ont eu lieu principalement pendant la période de la dictature de Pinochet, entre 1973 et 1990. Mais la police judiciaire chilienne et les associations de victimes estiment que depuis les années 60, plus de 20 000 enfants chiliens pourraient avoir été adoptés de manière irrégulière. L'une de ces associations s'appelle Hijos y Madres del Silencio, Enfants et Mères du Silence. Marisol Rodriguez, qui est à la recherche de sa grande sœur, est la porte-parole de cette ONG créée en 2014 pour aider des mamans à retrouver leurs enfants.
Nous sommes environ 12 000 personnes dans un groupe Facebook privé. Nous faisons tout en ligne. Pour aider les mères et leurs familles dans leurs recherches, nous leur demandons de faire un test ADN car elles n'ont pas vraiment d'autres moyens de trouver leurs proches. Les enfants adoptés à l'étranger, par contre, ont souvent des documents, le nom d'une ville, un nom de famille. On fait les recherches avec eux, mais on leur suggère aussi de faire un test ADN pour être sûr, car les papiers qu'ils ont sont souvent faux. Malheureusement, seules 250 recherches ont abouti pour l'instant.
Trois cas de figure se répètent dans la plupart des affaires.
Le premier, c'était de dire aux mères que leur enfant était mort à la naissance, mais sans leur donner le corps. Le deuxième cas concernait les mères qui travaillaient comme employées de maison ou à la campagne, par exemple. Ces gens leur disaient qu'ils allaient s'occuper de leurs enfants la semaine et qu'elles pouvaient venir les chercher les week-ends. Mais après quelques semaines ou un mois, ils les donnaient en adoption sans leur accord. Et dans le troisième cas, ils disaient aux mères que leur nouveau-né avait des maladies très graves qui ne pouvaient pas être soignées ici. Et que si elles aimaient leurs enfants, elles devaient le donner en adoption pour qu'il ne meure pas au Chili.
L'ONG a identifié de nombreux intermédiaires dont les noms reviennent dans les dossiers d'adoptions illégales. Des prêtres, des assistantes sociales, des juges. Et pour plus de 700 enfants, la dernière adresse connue au Chili, indiquée sur leur passeport, était celle de plusieurs hôtels de Santiago. Guido a travaillé dans l'un de ces hôtels qui a fermé depuis. Pour la première fois, il accepte de raconter au micro de RFI ce qu'il a vu. Nous le retrouvons chez lui en banlieue sud de la capitale.
Je m'appelle Guido. J'ai 59 ans et j'ai travaillé à l'hôtel Conquistador entre 1979 et 1997.
Quand il était serveur au restaurant de l'hôtel dans les années 80, il a vu passer de nombreux couples qui venaient adopter des enfants au Chili.
Ils restaient environ 2 mois. Au début, quand ils arrivaient, ils étaient seuls pendant une ou deux semaines. Puis apparaissait quelqu'un qui leur donnait tous les contacts. Et ensuite, les enfants arrivaient. Puis au bout de 15 jours, à peu près, ils descendaient au restaurant de l'hôtel, faire la paperasse avec les avocats. Je les servais à table. Les Italiens adoptaient seulement des bébés, jamais des enfants plus grands. Et les Français et les Australiens adoptaient des enfants de 3 ou 4 ans environ.
Aujourd'hui, il se pose des questions sur le rôle qu'a joué l'hôtel dans ses adoptions. Il se souvient par exemple d'une femme qui était officiellement directrice des relations publiques.
Elle avait son bureau là-bas, mais elle n'a jamais vraiment travaillé comme chargée de relations publiques. Elle faisait le lien entre les avocats et les parents adoptifs, parce qu'elle parlait français et anglais.
Si ces réseaux ont pu fonctionner pendant des années sans problème, c'est notamment parce que la dictature de Pinochet avait elle-même décidé de promouvoir les adoptions d'enfants pauvres par des couples étrangers. C'est ce qu'a montré l'historienne Karen Alfaro dans ses recherches. Elle enseigne à l'Université australe du Chili et elle travaille depuis plusieurs années sur ce sujet.
Les adoptions forcées d'enfants s'inscrivent dans le cadre d'une politique de violence sociale contre ces familles pauvres. Il s'agissait d'une sorte d'eugénisme social.
La dictature tentait de montrer son développement économique et dans ce contexte, ces catégories sociales et les mineurs irréguliers, comme ils les appelaient, étaient perçus comme un problème. La presse les désignait comme le grand problème de notre pays.
La dictature craignait qu'en grandissant, ses enfants rejoignent l'opposition. Et puis, les dirigeants de la junte militaire ne voulaient pas dépenser d'argent dans des programmes sociaux.
Il propose donc d'augmenter significativement le nombre d'adoptions d'enfants chiliens. Et pour cela, les démarches d'adoption sont simplifiées.
Depuis les années 60, avant même le début de la dictature, des enfants ont été vendus entre 6 500 $ pour un bébé et 150 000 $ pour une fratrie. Mais pour l'historienne Karen Alfaro, sous Pinochet en particulier, les motivations des intermédiaires étaient souvent idéologiques plus que financières. Enfin, la dictature a utilisé ces adoptions pour renouer des relations diplomatiques avec plusieurs pays occidentaux. La Suède, par exemple, où les autorités ont fermé les yeux sur des irrégularités. Ou encore la France, qui depuis 1981 a reçu plus de 1 700 enfants chiliens adoptés, d'après le ministère français des Affaires étrangères.
Bonjour chers amis, nous allons démarrer. Nous sommes tous présents.
À des milliers de kilomètres de Santiago, ces enfants ont grandi et certains cherchent aujourd'hui à connaître leur histoire. Lucille Gimbert, de l'antenne de RFI en espagnol, est allée à leur rencontre dans le sud-ouest de la France.
Los voluntarios que van a presentar acerca de su
en cette
trabajo.
Fin du mois de juillet, l'association Chilean Adoptees Worldwide, c'est-à-dire Chiliens adoptés à travers le monde, a organisé une réunion d'information près de Toulouse. Quelques dizaines de personnes sont présentes, dont Johanna Lambolet. Elle est l'une des représentantes en France de cette ONG.
Alors moi, j'ai été adoptée au Chili en 1986, à l'âge de 5 ans et demi. Je vivais avec ma maman. Et donc j'ai été volée à ma maman biologique qui a passé 36 ans à me chercher.
Grâce à l'association, Johanna a retrouvé sa mère, mais elle considère que ce sujet est encore trop peu connu en France.
Le monde de l'adoption est un petit peu une omerta en France et donc on veut alerter les enfants chiliens qui recherchent leurs racines, que l'on existe, qui peuvent nous contacter et qu'on peut essayer de les aider dans la mesure du possible et de ce qu'on a pour reconnecter avec leurs racines, leur identité.
Toutes les adoptions d'enfants chiliens n'étaient pas forcément irrégulières, mais le résultat des recherches, quel qu'il soit, provoque souvent des émotions contradictoires. Laetitia Bourgier, 34 ans, a elle aussi réussi à contacter sa famille biologique au Chili. Après avoir cherché pendant des années, elle a fait appel au Service national des mineurs à Santiago, qui a retrouvé sa mère et lui a transmis une lettre et une photo d'elle.
En fait, on a le même nez, on a la même bouche, on a les mêmes yeux et sourcils. Et quand on est adopté, c'est la question de à qui on ressemble, c'est l'une des premières questions qu'on se pose. Et voilà, et là, ça y est. Et donc, du coup, voilà, je lis le courrier, elle me dit qu'elle ne m'a jamais confié à l'adoption. Là, soulagement, quand même, parce que je m'en doutais. Mais voilà, c'est quand même pas simple comme chose, parce que du coup, ça change toute mon histoire, qui est le fondement de notre identité en tant que personne. Hein.
Laetitia découvre qu'on a dit à sa mère qu'elle était morte à l'hôpital et elle se rend compte aussi que son acte de naissance a été falsifié. Aujourd'hui, elle s'interroge sur la responsabilité de la France dans ses affaires.
On ne peut que se questionner sur quand même beaucoup d'enfants qui sont sortis du Chili vers la France, qui sont du coup passés par l'ambassade de France. Quand même, ils connaissent le fonctionnement des lois. Et que voilà, il y a certains enfants qui sont sortis sans certains documents qui étaient obligatoires. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de zones de flou. Et que ce serait quand même très étonnant qu'ils ne se soient pas questionnés à un moment donné sur ça.
Concernant les couples étrangers, par contre, les associations de victimes pensent que le plus souvent, ils n'étaient pas du tout au courant que ces enfants n'avaient en fait jamais été abandonnés. Le père de Laetitia, André Bourgier, a soutenu sa fille dans la recherche de ses origines. Il est l'un des très rares parents à accepter de raconter les démarches qu'il a menées avec sa femme à l'époque.
Non, ça a été très simple. Bon, on savait déjà qu'en France, c'était très difficile. Les adoptions, il fallait compter 4 ans ou 5 ans, et encore, ce n'était pas évident d'avoir... Et on savait que c'était plus simple d'adopter dans un pays étranger.
Ils connaissent plusieurs personnes qui ont déjà adopté au Chili. Ils choisissent donc de partir pour Santiago. Leurs amis leur donnent des contacts et des adresses grâce auxquelles ils trouvent Laetitia dans un hôpital. Après seulement 15 jours sur place, ils payent des frais de traduction, des frais administratifs dans les tribunaux. Ils ne remarquent rien qui leur semble anormal et ils rentrent en France.
À notre arrivée à Blagnac, bon, moi je vous parle de Toulouse, donc c'est l'aéroport de Blagnac, on était déjà attendu par les quelques amis qui avaient déjà adopté des petits Chiliens, donc on était déjà attendu par quelques amis. C'est fabuleux quand même.
Alors il y a quelques années, quand Laetitia apprend qu'elle a été retirée de force à sa mère, André Bourgier met quelques temps à encaisser la nouvelle. Mais aujourd'hui, dit-il, il est content que Laetitia ait pu retrouver sa famille biologique. Pour d'autres parents, par contre, impossible d'aborder ce sujet avec leurs enfants adoptifs. C'est ce qui est arrivé dans la famille d'Alban, un jeune gendarme que Lucille a rencontré aussi lors de la réunion d'information près de Toulouse.
Bonjour, je m'appelle Alban Dubot. Donc j'ai 30 ans et je suis adopté depuis 30 ans.
Sur son passeport, qui a été établi au Chili quand il avait seulement 15 jours, Alban portait déjà son nom et son prénom français. Au début, ses parents lui racontent d'où il vient, mais vers l'âge de 6 ans, sa mère le trouve en train de fouiller dans son dossier d'adoption. Puis elle se braque et refuse de reparler de ses origines. Quelques années après, Alban se rend compte que les papiers ont disparu.
Impossible de remettre la main sur les documents que j'avais vus quand j'étais petit. Et après, en parlant avec mes parents, j'ai vu que c'était un sujet très tabou et c'était impossible de pouvoir parler plus avec eux. Donc c'était vraiment violent, vraiment pour que j'arrête de fouiner et je mette mon nez ailleurs.
Malgré l'opposition de ses parents adoptifs, Alban a décidé de continuer les recherches de son côté.
Ce qui m'importe le plus, c'est vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé, surtout. Est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est pas voulu? Pourquoi j'ai été abandonné? J'ai besoin de toucher la chair de ma chair, que ce soit un frère, une sœur.
Pouvoir prendre sa mère biologique dans ses bras, c'est aussi ce que souhaite Johanna Lambollet de l'association Chilean Adoptees Worldwide. Si les restrictions sanitaires le permettent, elle ira au Chili cette année pour la première fois depuis son adoption. Et elle lance un appel aux autorités françaises.
On voudrait juste que le gouvernement français, comme l'ont fait les gouvernements de Suède, de Hollande d'ailleurs, nous aident et reconnaissent aussi qu'il y a eu une part d'erreur dans leur traitement de dossier d'adoption.
Pour l'association Hijos y Madres del Silencio au Chili, il est urgent que les enquêtes déjà en cours avancent. D'après sa cofondatrice, Sol Rodriguez, ces adoptions forcées pourraient constituer des crimes contre l'humanité.
On ne peut pas laisser tout cela sous le tapis alors qu'il y a eu tant d'injustices. Des mères meurent en ce moment sans savoir où sont leurs enfants. C'est terrible, car il s'agit de vols d'enfants, et ici, au Chili, il y en a eu des milliers.
Enfin, elle demande au gouvernement de relancer le projet de banque de données ADN créé pour aider les mères victimes à retrouver leurs enfants. Un projet qui est à l'arrêt depuis un an et demi.
Adoption forcée au Chili, mère et enfant à la recherche de la vérité. Un grand reportage de Justine Fontaine et Lucille Gimbert. Réalisation Laurie Plisson.
Más vale.